Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
T'as un truc, Bouffon ? À manger par terre.
Littéralement l'impression de bouffer un nuage.
Qu'est-ce qu'on va rechercher dans le plaisir ?
La bouffe.
Tu bouffes ! Tu bouffes !
Le café fait parler. D'abord de lui, aujourd'hui, puisqu'on a tous vu ou au moins entendu parler par un collègue ou un pote de l'agitation qui a eu lieu autour de Starbucks et le docu qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Arte. Mais le café fait parler tout court aussi, et pas que depuis hier, mais bien avant. C'est d'ailleurs la raison de son succès. Le café délie les langues et allège la discussion. C'est d'ailleurs une des raisons de sa folle implantation partout dans le monde. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle il a souvent été banni ou interdit. Le café, c'est un truc de révolutionnaire qui prépare un coup d'état politique. Alors, je sais, ça se voit pas forcément quand vous le prenez là, les yeux mi-clos en écoutant la radio, mais à la base de la base de la base, c'était ça. Maintenant, c'est plus une sorte de drogue pour grandes personnes, un truc que les enfants trouvent nul, et les seules discussions qu'il provoque, c'est alors sucre ou pas sucre. Mais on y reviendra un peu plus tard. Parce que le café, c'est une boisson, un rituel, mais c'est aussi un lieu, le café. D'ailleurs, c'est le même nom, c'est assez pratique. C'est un lieu qui tient une place cruciale chez nous, et on en parlera en deuxième partie d'émission avec Monique Eleb, une sociologue qui a étudié nos cafés.
Quand on voit le nombre d'étudiants qui travaillent dans les cafés pendant le week-end, par exemple, moi j'ai observé ça un peu partout, ils sont beaucoup mieux que dans leur chambre de bonne. Hein. Donc ça c'est un stéréotype, mais quand même, c'est la vérité.
Mais d'abord, c'est Hippolyte Courty qui est venu nous raconter le café. Par exemple, tous les trucs que je vous disais sur la révolution, les langues qui se délient, etc. etc. En fait, je ne le savais pas avant qu'on passe une heure à discuter, lui et moi, dans son atelier. Hippolyte Courty, il se dit torréfacteur, mais il est bien plus que ça. Il vit le café, à la source d'abord en intervenant auprès des producteurs. Il en importe aussi chez nous, et puis il conseille des restaurateurs. En gros, il est d'un bout à l'autre de la chaîne. Il en vend d'ailleurs aussi à l'Arbre à Café, une boutique et un atelier à Paris. Puis il a aussi un site internet. Et puis surtout, quand je suis arrivé, il m'a servi un bon café. Et j'ai tenté la question Jean-Jacques Bourdin. Alors Hippolyte, il se passe quoi si je mets du sucre dedans ?
Alors si tu mets du sucre, tu vas couvrir, tu vas ce qu'on appelle pommader un certain nombre d'arômes et surtout de sensations, et notamment avoir l'idée que tu gommes un petit peu d'acidité et surtout d'amertume. Voilà.
Donc perdre la complexité du goût et...
Ah, tu vas complètement couvrir effectivement la complexité aromatique, tu vas couvrir les acidités les meilleures, mais couvrir aussi ce qui, dans les mauvais cafés, apparaît souvent, des goûts caoutchouteux, parfois une sécheresse en bouche, et donc tu vas arrondir avec le sucre.
Est-ce que du coup, on sucre, certaines personnes sucrent par habitude, un peu à cause des mauvais cafés,
Ouais, les gens sucrent pour faire passer le café, comme ils boivent après, et parfois fument. Alors, chez les fumeurs, on ne sait pas s'ils fument pour couvrir le café ou s'ils boivent du café pour couvrir la cigarette ou pour avoir une double dose d'excitant. Mais en tout cas, oui, on sucre. On a pris l'habitude de sucrer et de mettre du lait pour les mauvais cafés, tout à fait.
C'est vrai que c'est marrant, ce couple café-clope, qui a même des films à son sujet. Parce que ouais, toi, tu dis que c'est aussi un truc une espèce d'habitude pour cacher l'un l'autre. Est-ce que tu y as pensé, j'imagine,
ce... Oui, il y a plusieurs facteurs. Hein. Le café, le café est né avec un rituel et un rituel collectif de partage. C'est ce que l'on a appelé à un moment la pause café. Mais si on voit dans les films américains, et les États-Unis sont un pays de buveurs de café, c'est le cow-boy à la veillée, c'est le soldat à la veillée, il buvait pas du pinard, c'était pas le père pinard, mais c'était justement le café. En Éthiopie, il y avait une seule tasse et on faisait tourner la tasse. Il y a tout un rituel également. Quand le café s'est diffusé dans le Dar al-Islam, c'est-à-dire dans les pays d'islam, et on l'a connu grâce à l'islamisation de la Méditerranée, il a été parfois interdit à la Mecque, en Turquie et même en Angleterre, parce que justement, c'était un lieu, les cafés, les lieux de consommation du café étaient des lieux de débat. Parce que le café, ça excite, ça libère la parole, etc. Donc il y a ce côté rituel. Donc c'est normal que, quand on fume, c'est aussi un rituel. Il y a des moments où on fume, on va fumer. Et donc il y a cette association naturelle. Mais du coup, cette association rituelle, elle correspond aussi à une association gustative. Qui est un peu moins joyeuse, je trouve, ou moins réussite que le rituel.
Oui, parce qu'on ne voit pas, mais tu as fait des guillemets avec tes doigts quand tu as dit gustative. Toi, je sais que tu travailles dans le vin avant. Mm-hmm.
Et maintenant, t'as une manière de voir le café presque comme certains verraient du vin.
Oui, c'est ce qu'on a apporté justement à l'arbre à café. Quand je suis arrivé, enfin, moi, j'aimais pas le café, hein. Donc c'est vraiment la base de tout. Et j'aimais pas le café parce que pour moi, il y avait que des défauts en termes d'amateur de vin. Il y a ce qu'on appelle la volatilité, la réduction des arômes fermentaires, etc. Et comme j'ai jamais apprécié la puissance pour la puissance. D'ailleurs, par exemple, la Guinness, avant de boire une Guinness quand j'étais jeune, il a fallu que j'en boive 10 pour essayer. Maintenant, j'aime beaucoup, mais voilà. Et donc, le café, pour moi, c'était que de la puissance et du défaut. Et du coup, c'est vrai que ma première grille d'analyse, c'était un petit peu le vin. Donc, c'est pour ça que, tu vois, là, on est en train de saliver. Il est en train de vivre, le café. Donc, il y a une longueur en bouche qui est absolument incroyable dans le café. Et on n'a pas besoin de boire. On dit pas, ah, donne-moi de l'eau, c'est vermeil, ouais. Ça colle, etc. Maintenant, c'est en train de vivre. Et ça, je connais peu de produits, en fait, qui vivent aussi longtemps que le café. Par exemple, le vin à côté, c'est de la gnognotte. Il y a bien d'autres qualités, mais sur cette longueur en bouche, c'est absolument génial.
Mais c'est drôle, c'est parce qu'en plus, pour refaire un parallèle avec les consommations un peu habituelles des gens, c'est pour ça que dans les cafés, on va prendre un café, un verre d'eau, pour faire passer ce goût. Mais normalement, on ne devrait pas vouloir le faire passer.
Alors, le verre d'eau est vachement utile aussi, hein, pour, par exemple, un verre d'eau pétillante avant de boire le café, pour se laver la bouche, permet de l'accueillir extraordinairement bien. Hein. Mais un bon café, on n'a pas besoin de se rincer la bouche après. Ouais.
Et est-ce que tu penses qu'il y a eu un truc, comme tu es venu très tardivement au café, il y a eu un truc un peu de... Tu sais, la foi du converti, c'est-à-dire que tu as voulu rattraper toutes ces années et d'un coup, tu t'es dit, bon, maintenant, je vais faire de ma vie le café.
En fait, oui, il y a ça. Hein, c'est ce que certains appellent le syndrome de Saint-Paul, quoi, celui qui blastait justement tous les chrétiens, qui est devenu le plus grand justement convertisseur de pour le christianisme. Oui, il y a ça. En fait, j'ai découvert que le café pouvait être bon. Et puis moi, il y a quelque chose qui est très profond là-dedans. En fait, c'est que je crois en l'extrême diversité, en l'extrême bonté de l'humanité et de la diversité. Et donc, quand ne pas aimer quelque chose, pour moi, ça enlève du caractère, mais penser que quelque chose est mauvais, ça m'embête. Et dire que le café, en fait, c'est pas bon, ça me turlupinait intellectuellement et humainement. Et quand j'ai découvert le café, j'ai dit, bon ben voilà, en fait, il n'y a rien de mauvais sur Terre. Il y a des choses qui sont mal élevées, en fait, tout simplement, qui sont mal faites, pas assez, avec assez d'attention. Et ça, c'est mon passé. Enfin, c'est pour ça que j'ai fait de l'enseignement aussi. Mais c'est que je pense qu'on peut révéler de la qualité dans beaucoup de choses. Et là, effectivement, j'ai vu quelque chose que je pouvais servir.
Et justement, tu t'as fait de l'enseignement, tu as enseigné l'histoire, c'est ça ?
Ouais.
Du coup, nous, on aime bien dans Bouffon un peu croiser comme ça, cuisine, histoire, nourriture. Le café, il arrive quand à peu près ?
Le café est apparu il y a assez longtemps, enfin, il y a plusieurs milliers d'années, évidemment, 14 000 pour l'arabica, on pense. Il était consommé, semble-t-il, fraîchement. On prenait la pulpe, on prenait les feuilles, on les mastiquait, etc. Puisqu'il y a de la caféine, donc on s'était éveillé. Mais on ne le torréfiait pas. Et puis en fait, il est passé via, malheureusement, l'esclavagisme des peuplades du sud de l'Éthiopie au Yémen. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on a commencé à le torréfier et à le boire. Voilà. Et c'est la civilisation ou les rituels soufis. Vous savez, dans l'islam, il n'y a pas de monastère, grosso modo. Donc, si pour les gens très religieux, ben, ils travaillent la journée et puis ils prient la nuit. Et du coup, il faut mieux un stimulant. Et c'est pour ça que kawa, d'ailleurs, hein, kawa, ça veut dire celui qui porte l'âme. Et du coup, le café, la boisson, la consommation du café, s'est diffusée avec l'islamisation. Donc, au fur et à mesure que les musulmans sont arrivés à Talas, Poitiers, etc., le café, est venu. Voilà. Alors, un petit peu plus lentement, évidemment, mais c'est par la Turquie. Et puis après, il s'est diffusé Vienne, Marseille. Marseille, c'est la première ville, personne ne le sait en France, mais Marseille, c'est la première ville à avoir connu un coffee shop.
Et c'est vrai que c'était quoi le premier coffee shop de Marseille alors ?
C'était des gens comme Jean de la Roque, quelqu'un qui a écrit Voyage dans l'Arabie heureuse. Mais c'était en fait ce qu'on appelait les orientaux. les voyageurs qui allaient tenter l'aventure en Orient, étudier, etc., etc., qui revenaient, qui avaient découvert ce qu'aujourd'hui on appellerait le café turc. Et du coup, qui rapportaient ces graines et qui surtout rapportaient ce qu'on connaît, la vie sociale du café. Donc un lieu où on pouvait discuter, débattre, etc. Et du coup, c'est le foment de la révolution. C'est pour ça que ça a été interdit, en disant le café est révolutionnaire en fait. Et on retrouve ça même aux États-Unis, où les États-Unis, avec la Boston Tea Party, ils sont opposés évidemment aux Anglais, qui taxaient le thé, et puis qui avaient fait du thé leur boisson étendard. Et du coup, Jefferson, Adams, les pères de la révolution de l'indépendance états-unienne, ont dit on arrête le thé et on boit du café.
Parce qu'il y a quoi ? C'est le café, ça. Ça libère la parole, comme tu disais, ça excite un peu aussi.
Ça excite, mais ce que l'on voit, c'est que on se casse rarement la figure parce qu'on a bu trop de café.
Oui.
Alors que l'alcool et la bière, ouais. On le fait rapidement. Et c'est l'image qu'on prend souvent, c'est que le thé, ça va être très vertical. C'est une boisson de l'intérieur, alors que le café, c'est une boisson très horizontal, au contraire, ça ouvre le cœur et ça, voilà, on a envie de parler. On prend du café, non pas pour des raisons d'intériorisation, mais pour se mettre au travail, pour commencer une action, etc.
Comme le vin, d'ailleurs, dans le café, il y a des cafés qui valent très cher, il y a des petits amis aussi. C'est drôle, c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément.
Non, parce que le café, il connaît une grande révolution, et il va en connaître d'autres. Mais le café, c'est vraiment ce qu'on appelle une commodity, quoi. C'est une denrée alimentaire dont l'image a un petit peu changé parce que c'est produit au sud, dans les pays du sud, et c'est consommé dans les pays du nord. Alors, c'est en train de changer complètement, ça. Mais pendant longtemps, ça a été ça. Du coup, c'est le premier produit à avoir été fair trade. Commerce équitable. Et donc, au mieux, on parlait, vous savez, mon petit producteur, non, je travaille avec les petits producteurs du Chiapas, machin, etc. Ah oui, mais il est bon, votre café ? Ah non, mais c'est les petits producteurs du Chiapas, etc. On a l'impression qu'on adoptait carrément une famille ou un Indien, je ne sais pas, bref. Et donc, il y a eu ça, mais on n'a jamais parlé du café en lui-même. Au 19e, des gens comme Dumas, etc., parlaient de la variété du café, avaient une autre connaissance. Et du coup, depuis le début des années 2000, donc ça fait longtemps maintenant, mais une grosse quinzaine d'années, il y a tout un mouvement, notamment parce que les fils des caféiculteurs d'Amérique centrale étaient aux États-Unis, gros buveurs de café, donc je répète, commençaient à atteindre un âge de buveurs de café et à dire « Merde, en fait, mes parents ou mes grands-parents sont caféiculteurs, on boit du café à peine buvable ici, il y a quelque chose à faire ». Et puis, j'ai fait des études d'agronomie, de je ne sais pas quoi, de chimie et tout. Je comprends mieux que mon grand-père comment il faudrait faire du café. Et donc, il y a cet échange-là. Et du coup, la qualité du café a explosé.
Et c'est parti des États-Unis ?
C'est parti beaucoup de la côte Est, pour des raisons politiques aussi, voilà, pour emmerder les multinationales. Et puis, qui participent pas mal à ce qui parle beaucoup à ta génération, c'est-à-dire prendre soin de produits complètement démocratiques. Voilà, je ne vais pas m'acheter une voiture, mais je vais m'acheter un vélo. Et dans le vélo, je vais... Prendre le meilleur vélo, regarder jusqu'à la qualité de la sonnette, machin, etc. Et je vais faire ça pour tous les produits. Et en fait, si à la génération d'avant, on buvait du whisky, on regardait le vin, etc., toute la génération numérique, Twitter, etc., ont investi dans le café. Donc, ont des coffee shops à eux, ont mis le café au centre de leur habitude. Ça les arrange, évidemment. Il faut mieux avoir sur son lieu de travail un coffee shop
qu'un bar.
Qu'un bar, effectivement.
J'ai cru comprendre aussi que tu étais la personne à aller voir quand on n'aimait pas le café. Que tu disais que tu pouvais convaincre n'importe qui.
Ouais, mais ça coûte très cher parce que du coup, on ne vend plus du café, on vend une thérapie.
C'est ça. C'est ça, parce que ce que tu dis, c'est que en fait, tu poses des questions qui n'ont rien à voir avec le café.
Ouais.
Et tu arrives comme ça à peu près à dresser un profil psychologique.
Ouais. Mais donc, ça c'est toute mon expérience dans le vin. Donc, j'ai parallèlement à l'enseignement et j'ai enseigné à des profils très très variés, hein, que ce soit à l'université, en ZEP, dans les beaux quartiers, etc. Et dans le vin, souvent les gens, et dans le goût, on en discutait tout à l'heure justement, on a peur. On a peur de ne pas savoir goûter, etc. On perd tous les moyens. Donc, ce qui est super dans la dégustation et ce qui marche très bien, c'est de renvoyer à d'autres univers. Donc c'est, je sais pas, vous aimez les voitures. Bon ben, dites-moi quelle voiture vous aimez. Et si quelqu'un vous dit j'aime une Mercedes et pas Alfa Romeo, ben vous comprendrez qu'il a besoin d'un café un petit peu plus structuré, un petit peu plus sécurisant, qui a des arômes attendus plutôt que l'aventure.
Est-ce qu'on peut dire que la France est un pays de café ?
Alors c'est un pays du rituel et du lieu du café, ah, et qui est super intéressant et qui est très paradoxal. Enfin, la France a un rapport très paradoxal avec le café de toute façon, parce que c'est un pays qui a énormément à apporter au café. Ça a été l'un des premiers acteurs du café, pardon, avec la Hollande. Hein. C'est la France qui a diffusé partout les caféiers en fait. Alors, donc on ne sait pas, mais c'est très important. Ça a été le premier producteur mondial pendant longtemps par ses colonies. Et puis elle a inventé plein de préparation de café, c'est-à-dire de machine à café. Sauf que la France a une blessure narcissique avec le café, c'est-à-dire pendant très longtemps, quand on rentrait chez quelqu'un, il disait, bah, est-ce que vous voulez du café ? Ah bah oui, ah, non mais bon, c'est un petit café, hein. Voilà, il est là, c'est le café filtre, hein, vous savez. Hein. Et même quand Nespresso est arrivé, etc., c'est, non mais c'est simplement voilà, une capsule. Hein, voilà. Donc, on n'est jamais fier du café, sauf évidemment, les clients de l'Arbre à Café, on n'est jamais fiers du café que l'on va servir. Il manque ce côté offrande, en fait. Sauf que le café a été un lieu urbain, central, où on passe un temps absolument incroyable. Il y a eu un petit décrochage avec les jeunes générations, justement, parce que grâce à elles, les Français commencent à comprendre que le café était vraiment mauvais. Et donc imbuvable, et que payer un soda hors de prix, alors que pour le même soda industriel, on le payerait moins cher ailleurs et dans un lieu un petit peu plus sympa, avec des gens qui sourient parfois, ouais. Ça peut être pas mal. Du coup, la France est un lieu de café, et sur la carte postale, ça l'est. Hein. Sauf que c'est un lieu de mauvais café qualitativement.
Dans le côté rituel du café, j'ai l'impression qu'il y a aussi un passage à l'âge adulte. C'est vrai que moi, quand j'étais enfant, je voyais ma mère boire du café, je sentais que ça sentait bon, mais j'étais incapable d'aimer ça. Et je savais au fond de moi qu'un jour, j'aimerais le café. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment, ça joue de ça. Quoi. C'est aussi ce rituel-là de c'est les grands qui font du café le matin quand on est petit.
Mais ce qui est très beau dans le café, c'est effectivement l'émancipation. Et on découvre le café par l'odeur et l'atmosphère du café. C'est pour ça qu'il est un peu, il est souvent travaillé par l'aîné, en parfumerie, justement pour sa puissance évocatrice. Et pour ceux qui soignent dans les hôpitaux, donc les problèmes d'amnésie, etc., par les odeurs, ils soignent beaucoup par le café, justement. Et c'est l'une des premières odeurs, en fait, qui permet de reconstruire, de réparer la mémoire et de replonger. C'est la Madeleine de Proust, grosso modo.
C'est vrai que moi, il y a un truc très fort de Madeleine, parce que je me souviens d'aller acheter du café avec ma mère dans des endroits où il torréfiait, donc cette odeur-là qu'il y a dans l'atelier où on est ici, et qui est vraiment très particulière, quoi, qui ressemble à rien. Pour revenir juste sur, on parlait de l'histoire du café. Il a toujours eu cette image-là de comme on le buvait maintenant, enfin comme on boit maintenant, c'est-à-dire de rituel. Quand on a parlé, c'est un rituel de réunion, de lieu. Ou parfois, il a eu des, enfin, est-ce qu'il a évolué?
Alors, il a évolué, mais le café a été vraiment le café lié à la sociabilité et au petit déjeuner familial, ensemble. Ça a évolué d'abord par la multiplication, on va dire, des gens qui vivent seuls et donc qui prennent un café tout seul, mais il y avait une difficulté à faire le café seul. Et puis, ça a évolué au début des années 2000 avec l'invention d'un drame environnemental qui est le portionné dans le café.
Les capsules.
Voilà. Et avec comme ADN, comme vraiment à l'ADN, c'est The Ultimate Coffee Experience. The Ultimate Individual Experience. Donc, c'est comment prendre son café égoïstement, mon plaisir à moi, etc. Qui a été admirablement réussi. Qui est en train de décliner complètement aujourd'hui. Mais c'était ça. Donc, il y a eu vraiment une rupture, en fait, dans la relation au café. Rupture qui est aussi contextualisée, c'est la fin du café-clope, puisqu'on ne pouvait plus fumer dans les bars. On se rend compte qu'effectivement, on peut faire mieux, ou au pire, aussi bien ou aussi mal à la maison que dehors. Et c'est la fin, justement, de ce rituel entre collègues ou du café avant le travail, puisqu'on ne lit plus le journal, on a le smartphone, etc. Et on ne peut plus fumer dans les bars.
Mais est-ce que c'est en train de revenir avec les coffee shops, justement ?
Non, sur les coffee shops, c'est une autre...
C'est à emporter souvent.
C'est à emporter, et puis c'est des lieux de travail. Mmh. Donc, c'est le troisième lieu oui. que l'on connaît tous. Où c'est un lieu de discussion, mais qui a remplacé le café, mais qui n'a pas remplacé le café du matin, le rituel du petit noir au comptoir. Ça, qui n'existe plus, ou très peu. Nous, on a des clients qui font ça, mais c'est vraiment très peu, parce qu'il faut de la mixité sociale pour ça. Ouais. Il faut des travailleurs. Et il faut des zones où il y a des gens qui viennent toute la matinée, donc qui commencent à différentes heures.
Ouais. Et pas des gens qui viennent juste prendre et aller...
Ou qui vont directement...
Ou qui viennent avec leur ordi, oui. Et le café est mondialisé, on peut le dire.
Oui.
Et en même temps, je trouve qu'il y a un truc un peu étonnant, c'est que donc, le café est partout. Il y a quand même toujours des spécificités locales. Le café con leche en Espagne, l'expresso très serré en Italie, le café encore différent qu'on boit aux États-Unis, les filtres, ce qu'on appelle l'américain. J'imagine que même le café turc dont on parlait, qu'on retrouve aussi en Grèce. Et qu'est-ce qui fait que chaque pays a un peu aussi développé son histoire autour du café?
Alors ça, c'est le dans le développement du... c'est une discussion un peu plus large, mais dans le développement des goûts, il y a beaucoup de culturel, évidemment, et un culturel qui est fondé sur, en général, des produits naturellement présents sur le terroir, et puis sur l'histoire du terroir, donc les portes. Par exemple, le port de Naples, c'est le port de l'Afrique, en Italie. C'est une zone... qui est moins développé économiquement que le nord de l'Italie. Donc on va prendre du café peu cher et on va prendre du café africain, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest, donc du Robusta. Du coup, on va le servir très, très serré. Et on va dire qu'il faut le sucrer. Il y a même un dicton, c'est la vie est déjà tellement amère, pourquoi le café devrait l'être, okay ? Alors que Venise, c'est la porte de l'Orient, mais du Levant, donc de l'Arabie et du coup de l'Arabica. Et du coup, là, on va avoir inventé, c'est l'un des premiers cafés qui a ouvert d'ailleurs, on va avoir inventé le café avec des épices, parce qu'on mêlait les deux mondes. Donc, voilà, toutes ces traditions, elles sont le fruit d'une histoire de flux qui fait qu'il y a cette grande diversité, et puis de machines aussi, de préparation. Donc, on se moque beaucoup du café chaussette. En France, c'est les Français qui l'ont inventé, ce qui est assez drôle. Et aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé en Amérique centrale encore. L'espresso, par exemple, pour les Français, c'est le parangon du café. Quoi. C'est la plus grande qualité du café. Pour les dégustateurs du café, nous, on adore ça, l'espresso. Enfin, je suis un grand buveur d'espresso. Mais ce n'est pas la meilleure façon d'exprimer toutes les qualités des meilleurs cafés. C'est très réducteur, en fait, l'espresso.
Merci à Hippolyte de nous avoir reçus. Le café qu'il m'a offert était parfait. Ça fait partie des avantages de faire un podcast sur la bouffe. On a parfois de très très beaux cadeaux. Mais assez parlé de café, parlons maintenant des cafés. Avec la sociologue Monique Eleb, qui a écrit un livre « Paris, société de café », dans lequel elle analyse la place et la population des cafés parisiens. Alors, on dit café parisien, mais c'est autant des cafés de la ville de Paris qu'un modèle de café présent dans bien des grandes villes en France. Ces cafés qu'on appelle des cafés, pas vraiment des bars ni des rades, on n'y joue pas vraiment aux chevaux, on y mange quelques fois, mais on s'y retrouve surtout. Et vous allez voir que ces endroits sont des refuges cruciaux à la bonne vie d'une société comme la nôtre.
C'est que certains cafés changeaient de population et de style au cours des heures de la journée. Par exemple, le café, il y en a un qui est typique de ce genre de différence par rapport au temps, à la scansion du temps. C'est le Petit Suisse qui est en face du Sénat, à côté du Luxembourg, et à côté du théâtre de l'Odéon, où le matin, il y a les jardiniers du Luxembourg, les techniciens du théâtre, puis arrivent les sénateurs, puis arrivent les étudiants de la Sorbonne qui est à deux pas, puis arrivent des touristes, ensuite des acteurs qui vont aller faire une pause avant le spectacle. Donc toute une série de scansions du temps et de populations très différentes. Et puis le rapport au café lui-même. On s'assoit, un café c'est un lieu où on s'assoit. Mais il y a encore des cafés parisiens où on boit du café au comptoir. Et donc, la population qui boit au comptoir n'est pas du tout la même que celle qui s'assoit. Et il y a eu une tendance, quand on a commencé à travailler là-dessus, il y a eu une tendance à ne plus avoir de comptoir. Ce qui est une tendance pour éviter les alcooliques.
Pourquoi le café s'appelle café, justement? Parce qu'on y vend beaucoup d'autres choses.
Mais c'est parce que les premiers... on appelait les lieux où on se rencontrait, parce qu'ils existaient, ça s'appelait estaminet, ça s'appelait... Ça avait toutes sortes de noms, mais le nom de générique, c'était débit de boisson. Donc, ces lieux ont été, d'une certaine manière, déconsidérés quand l'idée de boire du café est arrivée. Alors ça, c'est quand même la fin du XVIIe siècle, hein, début du XVIIIe, et donc avant la Révolution, mais bien avant... on buvait du café à la foire Saint-Germain. C'est là que ça s'est popularisé.
Parce que c'était une bizarrerie qu'on l'a trouvée qu'à certains endroits.
Bah, c'est-à-dire que
c'était
la mode d'une boisson qui était un peu révolutionnaire parce qu'elle était revigorante. On avait l'impression qu'en faisant ça, on reprenait du courage, qu'on devenait beaucoup plus clairvoyant, etc. Donc il y avait cette idée que le café était... était la boisson à la mode, en fait, à cette époque-là. Et donc, les cafetiers, les premiers cafetiers qui l'ont popularisé, se sont appelés café, parce que ça a attiré un type de population. C'était pas le cabaret, c'était pas le café-concert non plus, enfin bon, mais c'était le café où on pouvait... s'asseoir et boire ce qu'on voulait. On buvait du café, du chocolat à l'époque en plus, qui était très à la mode. Et donc, les deux ont été à la mode en même temps, hein, à la fin du XVIIe siècle. Et cette idée, c'était qu'on pouvait à la fois reprendre des forces et en même temps rencontrer des gens. Et puis, très vite, le café est devenu un lieu dangereux. Enfin, un lieu dangereux pour la police. C'est-à-dire que c'est là que se rencontraient les révolutionnaires et donc on parlait de politique, on lisait des journaux, on diffusait les idées, les émeutes se préparaient là, enfin, etc. Donc voilà, le café, c'était quand même le haut lieu de la rencontre qui pouvait dégénérer.
Qu'il fallait donc surveiller potentiellement.
Voilà, qu'il fallait surveiller potentiellement, exactement.
Et pourquoi on parle de café parisien ?
Parce que c'est à Paris que s'est développé un type de café. Bon, justement, le Palais Royal, les premiers cafés, c'est le Palais Royal et le Procope. Et puis rue Mazarine, avant le Procope, il y avait aussi un premier café à la fin du XVIIe siècle. Et en fait, c'est là que s'est développé un type. Alors évidemment, quand on regarde l'Europe, il y a les cafés viennois aussi, qui sont du même ordre. Hein. Mais le type du café parisien s'est instauré. En fait, très très vite, un décor s'est mis en place. Un décor souvent, il y a de boiseries, etc. Mais il y a eu peu à peu aussi le café populaire, avec les tables à carreaux, etc. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que il y a des cafés et des cafés-brasseries. Et qu'aujourd'hui, la plupart des cafés font ce qu'on appelle de la petite brasserie. C'est-à-dire on peut manger quelque chose de léger, de vite préparé, etc. Et ça joue un rôle très important dans la vie quotidienne d'aujourd'hui. Parce que si on peut dire, si on a pu conclure, nous, de notre livre sur la société des cafés à Paris, c'est que le café est devenu, pour les Parisiens, le troisième lieu, c'est-à-dire que, en fait, il rentre, je crois, 700 000 personnes à Paris dans la journée. Ces gens-là n'ont pas de lieu pour se reposer entre deux. Voilà. Alors le bureau ou le lieu de travail et la maison ont un intermédiaire qui s'appelle le café. Voilà. Et donc ça, c'est très très parisien. Mais c'est parce qu'il y a encore des villes de province où on rentre chez soi pour manger. Hein. Bon, donc ça, c'est très important. Mais il y a aussi le fait de la métropole, de la grande ville. C'est-à-dire des gens, par exemple, qui attendent au café que leur très difficile de la fin de la journée soit passée pour prendre leur RER pour rentrer chez eux. Ben voilà, par exemple, on voit autour du Luxembourg, par exemple, on voit ça très bien. Et les hommes et les femmes. Alors, ça implique aussi une autre histoire, c'est que le café a été masculin pendant des siècles et qu'il est devenu complètement mixte aujourd'hui à Paris. Mais ce n'est pas vrai partout. Hein. Donc, il y a eu des transformations très, très importantes et parmi lesquelles il y a eu une petite révolution dans les années 80 et qui sont les cafés Coste. Coste.
On peut expliquer que c'est un groupe parisien.
C'est un groupe parisien.
Qui a lancé tout un truc avec des cafés, des boîtes de nuit, des restaurants et aussi des compilations de musique. Oui, enfin, il y avait une espèce de concept.
Voilà. Mais à l'époque où ils ont commencé, si vous voulez, c'était deux frères qui avaient l'idée qui étaient d'ailleurs fils de cafetiers, je pense auvergnats, et qui. Parce que les auvergnats. Avait beaucoup de café charbon pendant un certain temps dans l'entre-deux-guerres et donc était très installé à Paris. Et donc, les Costes ont compris que les jeunes se détournaient des cafés à cette époque-là, dans les années 80. Bon, c'est inimaginable aujourd'hui avec ce qu'on voit dans les rues aujourd'hui de Paris. Mais à cette époque-là, les cafés étaient en déliquescence. Les jeunes se plaignaient d'être mal accueillis dans les cafés, tout le monde se plaignait du service des cafés, de la saleté, etc. Donc il y avait un malaise très important. Et les frères Coste ont demandé à des architectes et à des décorateurs de haut vol de faire des cafés qui avaient des cafés design, en fait, qui ont été totalement en rupture avec l'esthétique habituelle du bistrot. Et ça a fait boule de neige. Et puis, peu à peu, il y a eu aussi un changement du type de patron. Parce que les patrons sont devenus des entrepreneurs, et donc des jeunes gens, qui ouvraient leur café, au fond, à d'autres jeunes gens et qui avaient une toute autre conception du café, de l'accueil, et aussi du décor. Donc, il y a eu une transformation entre les années 80 et aujourd'hui énorme des cafés parisiens. Alors, évidemment, il y en a beaucoup qui ont disparu, et c'est une des caractéristiques. Mais en même temps, à Paris, il y a moins de disparitions qu'on ne le croyait à cette époque-là. Mais ce qui a disparu effectivement, c'est le petit café de. Enfin, non, le petit café de quartier continue. Mais il y a beaucoup de petits cafés de quartier qui ont disparu. Et l'esthétique banale du petit café du coin, elle existe encore. Mais c'est un petit peu moins fort qu'il y a 30 ans. Quoi.
Est-ce qu'il y a aussi un côté refuge, même pour des Parisiens et pas que des ceux qui viennent de l'extérieur, mais des gens qui, par exemple, ont des appartements un peu petits, donc
exactement.
On se retrouve dans un café.
Ça, c'est une question assez traitée depuis très très longtemps par les sociologues. C'est que le café est le salon du pauvre. C'est ce que disait Geoffre du Mazetier, d'ailleurs. Il avait travaillé sur des quartiers du 13e très 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 pauvres, très insalubres, avec des appartements minuscules autour de cours un peu voilà. Et donc il avait observé que le café était le lieu où les gens allaient 3 ou 4 fois par jour, qui donnaient rendez-vous là et que c'était leur salon qui recevait et que même parfois ils avaient une bouteille à demeure, c'est-à-dire, et parfois un rond de serviette avec une serviette. Donc en fait, oui, le café jouait ce rôle-là de compensation, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Parce que quand on voit le nombre d'étudiants qui travaillent dans les cafés pendant le week-end, par exemple, moi j'ai observé ça un peu partout, ils sont beaucoup mieux que dans leur chambre de bonne. Hein. Donc voilà, donc ça c'est un stéréotype, mais quand même, c'est la vérité. Et puis, il y a un autre élément. C'est de se sentir vivant, c'est-à-dire de se sentir faisant partie de l'humanité. Voilà, c'est voir et être vu, ce que moi j'appelle la pulsion scopique, enfin que je reprends de Freud, hein. C'est-à-dire le plaisir de se sentir humain au milieu des autres. Et c'est très, très important. Plutôt que de travailler chez soi, on va travailler au café, parce que même si on passe qu'une heure, parce que comme ça, on a l'impression d'avoir fait quelque chose qui vous sort de votre quotidienneté. Et c'est très important.
Vous n'êtes pas seul dans sa chambre d'étudiant. Voilà. Ou... Et le fait justement de travailler dans les cafés, c'est quelque chose qui est récent, quelque chose qui a toujours existé sous des formes différentes?
Oui, sous des formes très. Oui, ça a toujours existé sous des formes différentes, puisque d'abord, il faut dire que la lecture dans les cafés a toujours été quelque chose d'important. On a toujours lu dans les cafés et parfois lu à voix haute pour les copains autour. Donc la lecture a toujours existé, l'écriture aussi. Ben, on a l'exemple de Sartre et Simone de Beauvoir, mais enfin bien avant, beaucoup de gens écrivaient dans les cafés. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est le fait qu'on a son téléphone dans sa poche l'ordinateur portable, et que effectivement, le café est devenu un bureau pour beaucoup. D'ailleurs, on peut se demander, au fond, pourquoi les lieux de coworking marchent, parce qu'au fond, on peut aller aussi au café sans payer, en payant juste un café. Donc c'est voilà. Hein, donc c'est toute une suite au fond de mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a toujours des habitués dans les cafés, toujours. Moi, il m'est arrivé d'arriver dans un café, de m'asseoir à un endroit, et le patron est venu me dire que c'était le lieu des habitués. Et donc, je suis restée quand même en disant, c'est ceux que je veux voir, j'aimerais bien discuter avec eux. Et quand ils sont arrivés, ils étaient très étonnés de me voir à cette place, parce que c'était une place réservée.
C'était quel type de gens
Ces gens-là, oui. Les gens, là, c'était dans un café du 13e, c'était des gens qui se connaissaient depuis assez longtemps et puis qui intégraient d'autres gens qui arrivaient dans le café et qui avaient des habitudes. C'était leur lieu. Et d'ailleurs, ils disaient, si le patron change, ce café, c'est le nôtre.
Du coup, c'est un peu un rôle d'office du tourisme du quartier, en quelque sorte, pour les habitants. C'est-à-dire que quand on va habiter dans un nouveau quartier, on va au café pour un peu se signaler et montrer qu'on est...
Ah, ça, c'est très important. Le café est un lieu d'intégration, mais il a aussi été un lieu d'intégration pour le tout venant, mais aussi pour les émigrés. C'est là qu'on apprend à parler français. Hein, les Polonais, les Italiens, aujourd'hui les Maghrébins, et puis les Serbes et les Croates apprennent à parler et apprennent les règles de la société en grande partie dans les cafés. C'est un lieu de sociabilité où les interactions sont assez fortes. Si on veut, on peut, mais on peut aussi ne pas le vouloir. Hein, mais si on veut, on peut très vite parler à d'autres gens. Et donc, c'est un lieu d'intégration depuis toujours, le café.
C'est vrai que c'est facilité aussi par le café, l'alcool, donc ils vont avoir des choses qui vont un peu délier les langues d'une manière ou d'une autre. Et puis aussi le fait qu'on n'est pas chez soi, mais qu'on est dans un lieu un peu neutre, qui est à la fois
exactement
chez tout le monde et chez personne.
Voilà, et puis dans ce lieu neutre, on peut jouer un rôle. Dans beaucoup de cafés, les habitués ont des surnoms. Personne ne sait ce qu'ils font, mais... ils représentent et ils peuvent jouer un rôle. Et donc, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que dans le café, on se dépouille de sa personnalité habituelle. On n'est pas un père, une mère, quelqu'un qui a une profession. On est à égalité et on peut jouer à être quelqu'un d'autre que soi-même. Et c'est très plaisant pour la plupart des gens. Donc l'idée qu'on se dépouille des choses qui sont lourdes dans sa vie, au fond. Et puis, on n'est pas obligé de jouer les mêmes rôles qu'à d'autres moments. Quoi. Voilà.
Le prix du café est une espèce d'index qui permet de savoir si on est dans un quartier chic ou pas. C'est souvent un espèce d'étendard que les gens mettent en avant en disant « Mais à Paris, sur les Champs-Élysées, on paye le café 4 euros, alors que moi, on le paye 1 euro au comptoir. »
Oui. Alors ça, bien sûr que c'est un marquage social, il n'y a pas de doute. Les cafés, dès qu'une rue a du succès, parce que c'est par rue, hein, comme je vous le disais, c'est des territoires. Dès qu'une rue a du succès, on voit se mettre en place ce système de hiérarchie des prix et de hiérarchie des cafés. Mais c'est vrai qu'il y a des quartiers où tous les cafés sont chers. Voilà, où le café est cher partout, parce qu'ils s'alignent les uns sur les autres. Alors qu'il y a des quartiers qui restent, au contraire, dans l'idée de hiérarchie, c'est-à-dire du café à 1 euro au bar, avec un prix moyen sur la terrasse, et d'autres cafés à 50 mètres qui, eux, vont avoir étant donné le type de clientèle qu'il vise et le décor, enfin il y a toute une série de variables qui vont maintenir un café très cher.
Qu'est-ce que ça pourrait être l'avenir? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer, de changer, ou c'est quelque chose qui est tellement ancré dans nos vies que, et depuis tellement longtemps qu'en fait ça va rester comme ça encore?
Ben, ce qui a changé récemment, c'est le décor. Ça a changé pas mal, puisqu'on a vu de plus en plus apparaître des cafés avec des fauteuils, des cafés appartements, des cafés avec des divisions, avec des petites salles, de plus en plus. Enfin, vous voyez, ça existait déjà. Hein. L'idée de dissocier, par exemple, les fonctions du café, par exemple, ce que je vous disais sur le café, le fumoir, par exemple, tout à l'heure, il y a des coins bibliothèques, il y a des coins plus calmes où on peut travailler, il y a des coins où on peut lire les journaux, etc. Donc, c'est le café à coin, en fait, qui est en train de se propager avec une offre plus grande. Les cafés-librairies, ça existe depuis le début. Rue Mazarine, un des premiers cafés de la rue Mazarine, au XVIIe siècle, était un café-librairie, bibliothèque, plutôt. Bon, donc on voit apparaître de plus en plus, on les a vus apparaître en l'an 2000, hein, mais de plus en plus, il y a des cafés avec des coins qui sont différenciés pour le calme, le travail, voilà, etc. Et puis, il y a des cafés qui miment la maison, avec cheminée, avec fauteuil, avec assise basse, avec table basse. Donc, on a les deux en ce moment. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça évoluera, mais on a les deux. Ce qui est frappant, c'est plutôt la constance chez les jeunes de la vie de café. Ça, c'est très important.
Merci à Monique Eleb. Vous pouvez retrouver son livre « Paris, société de café un peu partout ». Elle a aussi écrit sur les cafés de Los Angeles, et puis elle a aussi énormément étudié l'habitat, le nôtre. Vous pouvez retrouver ses conférences et ses écrits un peu partout sur Internet. Merci aussi à Hippolyte Courty. La meilleure personne pour que les gens qui n'aiment pas le café aiment le café, c'est lui. Donc passez si vous voulez à l'Arbre à Café ou allez sur son site. Il fait aussi des ateliers, enfin plein de trucs, vous verrez tout ça. On met toutes les infos dans la barre d'infos. Toutes les adresses évoquées aussi durant l'épisode sont à retrouver sur le site de Nouvelles Écoutes, nouvellesecoutes.fr/bouffon. Et sur Mapster, notre application qui regroupe toutes les adresses dont tous les invités ont parlé au fil de tous les épisodes de Bouffon. On a aussi un Twitter, @bouffonne, et c'est pareil sur Instagram. Bouffon est une émission de Nouvelles Écoutes que j'anime, moi, Guillaume Malissen, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et mixée par Thibaut Delage au studio L'Arrière-Boutique, production et coordination, Laura Cuissard. Parlez-en autour de vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast si le cœur vous en dit. En tout cas, nous, ça nous fera hyper plaisir. Et même de lire vos commentaires sur l'émission, je suis toujours très content de les voir. En tout cas, Bouffon, c'est terminé pour cette semaine, mais on se revoit la semaine prochaine.